French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
J'ai l'impression d'être au travail là, avec un micro dans la main. Ladies and gentlemen, from the flight deck, we are number 2 for takeoff today, so please remain seated and flight attendant, please secure the cabin for takeoff, thank you. Le rêve américain, je pense qu'il est propre à chacun en fait, tu vois. J'ai mon oncle en fait qui est venu aux États-Unis il y a 50 ans en fait, après la Seconde Guerre mondiale, et lui il a fait son propre rêve américain, c'est-à-dire qu'il a énormément travaillé pour gagner énormément d'argent et pour faire sa vie, pour acheter ses maisons, etc. Ça peut être un rêve américain. Moi, mon rêve américain, c'était vraiment d'arriver ici, de fonder une famille et d'avoir un métier qui me permettait en fait d'avoir cette famille. Et en plus de ça, bon, effectivement, c'est en plus de ça, j'étais philo de ligne, c'était quand même la cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est ma famille avant tout, quoi.
Quand on a lancé French Expat en octobre 2019, on avait la boule au ventre. Qui allait nous écouter? Et si on était ridicule? Et si les histoires ne rencontraient pas leur public? Comment allions-nous éditer les témoignages récoltés? Vous vous en doutez, on a tout de même fini par appuyer sur le fameux bouton « Publier l'épisode ». On a même un peu publié en secret initialement, pour tout vous avouer, le temps de s'assurer que tout fonctionne. Mais à peine une heure après, nous avons reçu le message suivant. Super cool le podcast, je viens d'écouter l'épisode 2, le 1 ne fonctionne pas. Bon, mis à part le souci technique, c'était fou et désormais officiel, nous avions au moins un auditeur. Chemin faisant, on a commencé à discuter avec Anthony, jeune français parti vivre en Chine pendant quelques années, mais ayant rencontré l'amour en Californie, d'où il nous écoutait et où il s'était installé peu de temps auparavant. Une belle histoire d'amour et de reconversion un peu dingue, vous savez, le genre de reconversion dont on entend surtout parler auprès de celles et ceux qui ont décidé de changer de vie en partant vivre à l'étranger. Cette personne, c'est Anthony Deringer. Ingénieur devenu pilote de ligne, on s'était quitté en janvier 2020, juste avant le début de la pandémie. Et cette semaine, il est à Denver, dans le Colorado, là où je vis désormais. C'était donc l'occasion d'aller prendre de ses nouvelles. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely.
Pour ceux qui nous écoutent, t'es un des tout premiers auditeurs, limite le premier auditeur de French Expat.
Techniquement, je pense que je suis le premier.
Parce que c'était pile, aujourd'hui on est le 6 octobre au moment où on enregistre ça, on a sorti notre premier épisode le 7, mais il était sorti quelques heures avant, et je me souviens que tu nous avais envoyé un message sur Instagram en disant mais je l'ai écouté votre épisode.
Je pense que j'avais pas grand chose à faire, je me suis dit tiens, je vais écouter un podcast. J'écoutais pas de podcast à l'époque. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant, en fait, de parler de français aux États-Unis ou à l'étranger. J'ai trouvé ça vraiment top, quoi. Ouais.
Est-ce que tu veux nous rappeler où est-ce qu'on s'était quitté à l'époque? Tu étais donc ingénieur, je ne sais plus exactement dans quel domaine. Tu revenais d'Asie.
Oui, c'est ça.
Tu nous avais raconté l'histoire d'amour avec ta femme quand vous étiez rencontrés sur un terrain de camping, un truc un peu incroyable. Et en attendant ta green card... pour pouvoir bosser, tu étais revenu en fait à une de tes premières passions qui était l'aviation et tu avais commencé à enquiller littéralement toutes les heures de vol.
C'est ça.
Et au moment où on se quittait, tu avais une offre de SkyWest.
Ouais. Tout à fait.
Mais c'était un petit peu en suspens puisque il y avait le Covid et que tu savais pas trop à quel point ça allait être servi.
Et en fait, je crois que quand on s'était quitté, j'avais pas encore reçu le coup de fil de SkyWest qui me disait qu'en fait ils annulaient l'offre d'emploi, et du coup je savais plus trop si ça allait se faire, pas se faire. En fait, personne ne savait vraiment ce qui se passait aux États-Unis avec le Covid ou dans le monde. Et en fait, un an plus tard, j'ai reçu un autre coup de fil qui me disait
donc janvier 2021,
c'était en février ou mars 2021, qui m'a dit en juin il faut que vous veniez à Salt Lake City et puis on va commencer le training. Donc voilà, janvier 2020, on s'est quitté. Je pensais être pilote de ligne et je ne l'étais pas. Et un an plus tard, j'ai reçu le coup de fil qui me disait que voilà, j'allais recommencer la sélection et repartir là-dessus. Ouais.
Et alors, qu'est-ce que tu as fait cette année en attendant ce nouveau coup de fil?
Ben, j'ai continué à être instructeur, donc ce que je faisais avant. Donc et j'ai continué à le faire. Après, avec le Covid, ça s'est quand même vachement baissé. J'ai organisé en fait mes journées vraiment différemment. Et ce qui était génial, parce que j'ai pu être avec mon fils beaucoup plus souvent, donc ça c'était génial. Mm-hmm. Et bosser aussi à côté. Et puis voilà, j'ai continué comme ça. Moitié maison, moitié vol.
Et à quel moment est-ce que tu as su que finalement ce presque hobby en fait que tu avais en attendant ton association de travail, etc., allait devenir ton métier tous les jours, tu vois? À quel moment tu t'es dit, mais en fait, ma vie, ça va être celle d'un pilote de ligne?
En fait, moi j'ai toujours voulu. Hein. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai toujours voulu être pilote de ligne. C'est juste qu'en France, à l'époque, donc c'était il y a une petite quinzaine d'années, c'était pas aussi facile. Il y avait peu de débouchés, peu de travail, etc. Et j'ai pris le choix de la facilité, c'est-à-dire de partir sur un diplôme d'ingénieur qui est financé par la France et qui débouche quand même sur beaucoup de travail.
Mm-hmm. Pour assurer tes arrières. Quoi.
Voilà, assurer mes arrières. Et puis je me suis dit, bon là, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être que ça arrivera, peut-être pas.
Ouais.
Et peut-être que je serai pilote de ligne, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris le chemin de la sécurité et d'être ingénieur.
Donc là, pour le contexte, on est dans le bar de l'hôtel où tu restes pendant ton escale à Denver, c'est ça?
C'est ça.
Donc en fait, c'était un rêve en fait, que tu as cultivé depuis tout petit?
Tout à fait. Ah oui, depuis que je suis tout petit, oui, mon papa était pilote. Lui, pas pilote professionnel, mais toujours pilote. Et je me suis dit, c'est quand même cool de pouvoir voler et d'être payé pour être volé. Quoi.
Un truc que tu m'avais raconté dans l'épisode qu'on avait fait sur la peur en avion, parce qu'en fait, tu as participé deux fois au podcast, c'est que en fait, quand vous partiez en vacances en famille, vous partiez en avion. En fait, comme on a un peu, si tu veux, l'image d'Épinal, de papa conduit, maman à la carte à côté.
C'est ça.
Bah, c'était pareil, mais c'était dans un avion, toi.
Exactement. Et c'était pareil. Hein. Ma maman avait la carte, elle s'occupait de la navigation, mon papa pilotait.
Voilà. D'accord. Et vous partiez loin avec ça?
On restait en France, mais on partait partout en France. Ouais.
C'est génial.
Et parfois c'était en avion, parfois en hélicoptère. Ça dépendait. Ouais.
Donc tu me disais comment est-ce que tu as pris ton mal en patience en attendant cette nouvelle offre. Du coup, tu t'attendais à ce qu'elle revienne, cette offre, une fois que la situation se calmerait?
On pensait qu'elle allait revenir, mais on savait vraiment pas quand en fait. C'était le problème. Parce que en même temps, en fait, où j'ai eu la nouvelle offre de SkyWest, j'ai accepté une offre d'emploi en fait. Au même moment, j'étais en fait pilote privé pour quelqu'un qui avait un avion, qui avait besoin en fait d'un pilote pour le balader, ouais. Et je le baladais un peu partout. J'allais à Vegas, j'allais à Phoenix, etc. Et donc j'avais accepté ça parce que c'était quand même une évolution en fait dans ma carrière.
Mm-hmm.
Mais en même moment, j'ai eu SkyWest qui m'a demandé en fait d'aller aussi chez eux. Je savais vraiment pas quand ça allait arriver. Et puis c'est arrivé vraiment. Mais vraiment au milieu de nulle part en fait. On pensait vraiment pas que ça allait arriver. C'est-à-dire que le lundi je partais voler, le mardi SkyWest m'appelait pour me dire voilà, la semaine prochaine il faut que vous veniez quoi. Et ça, je m'y attendais pas du tout.
Alors tu me dis que pendant cette période d'entre deux, en fait, t'étais content aussi de passer du temps en famille.
Ouais. Alors, ça, oui.
C'est quoi l'équilibre en fait vie pro vie perso quand t'es pilote de ligne?
Alors l'équilibre en fait c'est vraiment compliqué en ce moment. Ça dépend vraiment de la situation de la compagnie, de ta situation dans la compagnie. Est-ce que tu es très senior?
Ton ancienneté
Ton ancienneté, voilà. C'est très, très ancien ou pas. Tu as des mois en fait, où tu travailles pas beaucoup ou alors de façon, on va dire, très intelligente. C'est-à-dire que tu vas bosser 3 jours et après 3 jours après, tu seras à la maison. 3 jours on, 3 jours off. Et ça, c'est quand même relativement bien parce que tu arrives à avoir un bon équilibre à la maison. Tu arrives tu sais que tu vas être à l'hôtel pendant 2 jours cette semaine, mais tu sais que après tu vas passer tout le temps le reste avec tes enfants.
Mm-hmm.
Ça c'est quand même bien. Puis après tu as des mois un peu moins sympas où là je sais pas, tu as 5 jours on, 2 jours off, 5 jours on, 2 jours off, et là où tu es 4 jours à l'hôtel, tu vois pas tes enfants et tu rentres 2 jours, et puis les 2 jours, je veux dire, ça part à une vitesse de folie quoi. Et ça c'est assez dur, mais ça dépend vraiment en fait de ton emploi du temps. Donc là j'ai la chance pour le moment d'avoir un super emploi du temps.
T'as tes week-ends généralement?
Pour le moment les week-ends ça m'intéresse pas plus que ça parce que les enfants sont pas encore à l'école.
D'accord.
Heather, ma femme qui travaille en fait un peu les week-ends, etc. Donc pour moi les week-ends ça a pas une grosse importance pour le moment.
Mm-hmm.
Donc c'est même mieux en fait pour moi, du coup j'arrive à avoir un emploi du temps un peu plus flexible. Mais ouais, j'ai un emploi du temps plutôt cool. Donc là, en octobre, par exemple, j'ai 18 jours off.
Ah, génial.
Sur 30, donc c'est quand même relativement cool. Ouais. Donc, ça fait 18 jours
sachant
avec mes enfants.
Sachant que t'es pas payé au vol, t'es payé par mois.
Alors, je suis payé au vol, mais avec un minimum. Donc, à la fin, c'est comme si ouais, je suis payé au mois, en fait.
D'accord.
Après, si j'ajoutais des vols en plus dans le mois, là, je serais payé en supplément, ouais.
Avec tout ça, en fait, avec tous ces changements professionnels, il y a eu aussi un deuxième bébé qui est arrivé dans ta famille.
Et oui. Et c'est ça qui est... Oui, ce qui s'est passé depuis, c'est que... Donc, on avait Gabriel, à l'époque, qui avait à peine un an, quand on s'est parlé. Mm-hmm. Et depuis, on a Pierre, qui a maintenant aussi un an, qui a 12 mois, qui est arrivé pendant le Covid. Bon, après, c'est pas forcément un bébé Covid, parce qu'on le voulait depuis longtemps, mais effectivement, il est arrivé pendant le Covid et c'est notre deuxième.
Et alors, à quoi ça ressemble ton quotidien aujourd'hui?
Aujourd'hui... je suis à Denver dans le cadre du travail et je rencontre quelqu'un pour la première fois que j'avais pas rencontré. Je parlais énormément sur Instagram, etc. Et pour la première fois, du coup, je rencontre, ça c'est cool. C'est quand même relativement rare, hein. C'est la première fois que je.
C'est vrai?
Bah, je rencontre quelques personnes de temps en temps, mais ouais. Disons que dans ce cadre-là, pas forcément.
Ouais.
Mais ouais, mon quotidien, franchement, c'est génial. Hein. Quand je vais voler, ben. Par exemple, hier j'étais en Californie, le soir je l'ai passé dans l'Illinois à côté de Chicago. Aujourd'hui je suis à Denver, demain je retourne en Californie. Mm-hmm. Et puis après je passe 5 jours avec mes enfants et ma femme. Donc là, elle travaille énormément dans ce moment, donc on va pas faire grand chose. Mais la semaine dernière, on était en vacances à Carmel. Donc ouais, non, on bouge pas mal, on essaie de visiter un peu des coins aux États-Unis qu'on connaît pas trop. Et là, il y a 3 semaines, on était à Spokane, à Washington. Donc ça c'était génial, on avait profité de SkyWest pour voyager. Donc ouais, notre quotidien en fait c'est un peu vivre au jour le jour en ce moment. Et oui, donc, niveau de la vie de famille, j'ai vraiment beaucoup de chance en fait avec ma situation actuelle d'être pilote et d'être à l'hôtel 2-3 nuits par semaine, d'avoir ma femme qui s'occupe de tout à la maison, qui a un métier de photographe qui est quand même assez flexible, et j'ai eu énormément de chance, ouais, ça c'est sûr. Sans ça, ce serait un peu difficile de pouvoir vivre ma passion et mon métier comme je fais actuellement, quoi.
Dis-moi, tu me parlais tout à l'heure, puisqu'on a dîné avant d'appuyer sur enregistrer, tu me parlais en fait de l'apprentissage du français au sein de ta famille. Tu peux me raconter un peu comment ça se passe?
Je ne parle que 100% en fait français à mes enfants, à Pierre et Gabriel, et ma femme ne parle que anglais aux enfants. On essaie vraiment d'avoir cette... de scinder en fait le langage en deux parties, le papa qui parle français et la maman qui parle anglais.
Et t'es arrivé à t'y tenir? Enfin, je veux dire, c'est quand même une gymnastique mentale.
Ouais.
Si ta femme elle te parle en même temps que tu parles à tes enfants, enfin, c'est pas facile quand même.
Alors c'est pas facile, mais je pense que avec l'habitude on y est arrivé. Et bon, de temps en temps il m'arrive de lâcher un mot anglais aux enfants, et c'est marrant parce que Gabriel il me le reproche très rapidement.
Il te corrige.
À partir du moment où je parle anglais, il me dit « Ouh là là, non, non papa !» Et il commence à m'expliquer. Par exemple, si je dis « yes », il va me dire « non, non yes, maman yes, papa oui !» Et si je dis des couleurs en français ou en anglais, il va me dire pareil. Et c'est adorable, en fait. C'est génial, en fait. En fait, je savais pas trop, parce que c'est notre premier enfant. On savait pas... J'ai pas trop, moi, suivi non plus... comment se passait l'apprentissage de la langue française ou avec des enfants, etc. Et en fait, ça se passe très bien. Et je pensais pas, mais Gabriel, il a vraiment compris. Il arrive à savoir, il a 3 ans, mais il arrive à savoir quand je parle français ou quand la maman parle anglais. Et il arrive vraiment à scinder ça. Et je savais pas trop, en fait, s'il allait vraiment voir la différence. Et il le voit extrêmement bien. Et si je fais une erreur, il me le reprochera. Et c'est génial.
Et du coup, il parle couramment français. Enfin, là, il le comprend, il le parle bien.
La langue majoritaire, c'est l'anglais, forcément. Hein. Je suis le seul français parmi tant d'anglais autour. Par contre, il comprend 100%. Il comprend tout ce que je dis, en fait. Donc ça, c'est génial. Et s'il me le répond, en général, il va me répondre en anglais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander, en fait, de me le répéter en français. Donc c'est énormément de travail, mais je pense que sur le final... ça va payer, en fait. Et je pense que je pense qu'il aura un français un peu plus équilibré avec l'anglais, je sais pas, on verra. Je suis pas un expert, j'ai fait au mieux en fait pour le moment, et on verra.
Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi qu'il parle ta langue?
Ah, c'est une bonne question, ça c'est génial, hein. Franchement, c'est génial parce que qu'est-ce qui te définit en fait dans la vie, c'est quoi qui te définit, tu vois, c'est ta nationalité, c'est ton passeport, c'est ta culture, c'est quoi en fait, et je sais pas, et pour moi un langage c'est tellement riche en fait, ça t'amène tellement de connexions en fait, même au niveau de ton cerveau, etc. Ça apporte énormément, et le fait de parler deux langages, ça je pense que ça te permet d'avoir un niveau de compréhension un peu différent. Mm-hmm. Et puis en plus de ça, le français en fait ça t'apporte une culture. Mm-hmm. Que forcément on n'a pas forcément ici, et cette culture je pense que c'est important de la garder, et je pense que c'est vraiment dommage en fait de perdre le français, une culture. Mmh. Sur une génération en fait, c'est,
ouais.
Je trouve ça même triste en fait, voilà.
C'est vrai qu'on rencontre, je sais pas si ça t'est arrivé, mais ça m'est arrivé en 10 ans de vie à Boston, je rencontre pas mal de gens en fait qui disent ah ouais mon père est français ou mon père le parle français.
Et oui.
Mais moi je parle pas, je le comprends vite fait, mais je parle que anglais quoi. C'est un truc, t'en penses quoi? Moi j'avoue que ça me fait un peu peur.
Et ben, exactement, et c'est marrant parce que la semaine dernière je volais avec une hôtesse de l'air.
Ouais.
Elle me disait ah, ma maman italienne, et je lui dis ah bah ok, du coup tu parles italien et tout, c'est cool. Et elle me dit ah bah non je parle que anglais. Et je dis ah ok. Et je trouve que voilà, c'est vraiment dommage en fait de perdre cette culture, parce que c'est une culture, hein, le langage. Mmh. ça et puis ça
ouais, c'est pas que parler une langue quoi,
c'est que papa, voilà, exactement, ça apporte des connexions, ça t'apporte énormément plus que juste parler une langue. Et puis même si tu vas dans un autre pays, tu comprends, tu peux aller là-bas, tu peux parler avec les gens, tu peux, j'ai du mal à expliquer, je ne pourrais pas l'expliquer. Pour moi c'est tellement riche en fait d'avoir une deuxième langue que ça serait dommage de la perdre quoi. Ouais. Franchement ce serait vraiment dommage de la perdre.
Alors du coup, ta femme, est-ce que tu veux nous repréciser, pour ceux qui n'auraient okay. pas écouté le premier épisode, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Parce que c'est une histoire oui. un peu magique.
Alors, magique.
Et après, on va parler des langues qu'elle parle.
Bon, on s'est rencontrés il y a 11 ans maintenant.
Ouais.
C'était dans un camping aux États-Unis, en Californie, dans les montagnes, à côté d'une petite station de ski. C'était en été.
Ouais.
Et j'avais 21 ans à l'époque. Je venais aux États-Unis juste pour le fun, pour rencontrer un
ouais, peu. Ouais, tu faisais un road trip, t'étais basé chez tes cousins ou
ouais, c'est ça. J'avais des cousins, j'ai des oncles et des tantes aux États-Unis. Puis ils m'ont dit, oh, bah, là, on va là-bas, tu verras, c'est cool.
Ouais.
En plus, c'était en été, en Californie. Donc je me suis dit, super, je vais en short et en t-shirt. Et puis, en fait, l'été en Californie, il neigeait. Et j'avais très froid. Et Heather, donc ma femme, qui me disait, bah, peut-être que tu mettes un jean et des chaussettes, tu auras froid. Et je dis, bah ouais, mais j'ai pas prévu jean et chaussettes, moi, je suis en Californie.
Mais comment tu l'as rencontrée, la fameuse Heather?
Comment, bah, elle était autour d'un feu de bois. Mm-hmm. J'avais froid. Je me suis mis à côté de ce feu de bois.
Mais elle était en famille, non? C'est pas ça?
Ouais, elle était en famille. Et puis.
Et toi, tu t'es tapé Joe Lincruste
Bah, en fait, c'était un gros feu de bois. Et ouais, un petit peu, je me suis. J'avais froid. Imagine-moi, 11 ans auparavant, je parlais pas forcément en anglais. C'est vraiment l'anglais basique, tu vois, de minimum, quoi.
Mm-hmm.
Tellement basique que Heather pensait que je parlais pas anglais, tu vois. Et je me suis dit, bon, allez, il fait froid, il va falloir que je me mette autour du feu. Ouais. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, elle avait une petite caravane, on était dans la caravane, on jouait au jeu de cartes, etc. Et puis et voilà, on s'est pas rencontrés comme ça. Et de fil en aiguille, elle est venue en France, je suis revenu aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'étais pour le travail, je suis allé à Moline, dans l'Illinois, qui est peut-être à 30 ou 40 km de Iowa City. Et Iowa City, en fait, c'est là où je suis parti pour mes études en échange universitaire, juste pour 6 mois. Et c'est comme ça, en fait, que du coup, j'ai pu voyager un peu plus souvent, en fait, avec Heather à l'époque. Et je suis passé au-dessus. Aujourd'hui, j'ai pris des photos. Je suis passé au-dessus d'Iowa City. Et pour la petite histoire, le premier voyage que j'ai fait avec Heather quand je suis arrivé aux États-Unis pour mon échange universitaire, c'était à Denver.
Ah ouais ?
Et voilà, donc aujourd'hui, je suis venu à Denver de Iowa City et elle devait venir aujourd'hui, elle n'est pas venue.
Mais oui, malheureusement.
Malheureusement, mais ouais, on aurait dû refaire ça 10 ans après.
Ce n'est que partie remise.
Ouais, c'est clair.
Toi, maintenant, tu parles anglais correctement puisque tu nous fais de magnifiques annonces dans l'avion.
Ah non, j'ai toujours cet accent. Toutes les hôtesses, les captains, ils rigolent un peu avec mon accent.
C'est vrai.
Ouais, c'est pas grave.
Et Heather, elle parle un petit peu de français ou pas du tout?
Alors, quelques mots, mais pas plus que ça. Je pense qu'il y a tellement de travail à la maison, entre les enfants, son travail, etc., qu'elle n'a pas encore eu l'occasion vraiment de s'immerger dedans. J'espère que ouais, ça arrivera. Je pense que ça arrivera. Mais pour le moment, c'est pas encore au goût du jour.
Et comment vous faites du coup avec ta famille? Je sais que vous êtes rentrés il n'y a pas très très longtemps
ouais.
pour quelques temps. comment est-ce que vous faites en France, du coup ? Est-ce que tu fais la girouette traductrice ?
Ouais, ben, un peu de ça, oui. Après, ouais. Ma maman, elle parle un peu plus anglais. Mon papa, un peu moins, mais on arrive toujours à communiquer. Moi, je traduis quand ça commence à être un peu compliqué. Ça se passe bien, en fait. Ouais. On se connaît bien. Le langage des mains, ça marche bien.
Ouais.
Non, enfin, c'est un peu de traduction, mais... en fait, ce qui est marrant, c'est que mes parents, en fait, discutent énormément avec ma femme.
Génial.
Via WhatsApp, en fait.
Sérieux?
Ouais.
Pourquoi alors, parce que toi, tu réponds jamais?
Non, je suis pas dans le groupe, moi. Ils parlent entre eux. En fait, Heather, elle partage énormément de photos parce qu'elle est photographe, donc elle partage beaucoup de photos de Gabriel, de Pierre avec mes parents. Et j'en suis vraiment reconnaissant, c'est vraiment génial. Ma maman parle anglais, Heather répond en anglais. Et mon papa, il parle en français. Et. Heather traduit sur Google Translate et elle répond en français, en anglais, et puis elle retraduit en français et ça marche bien comme ça.
Ouais.
Et pour le moment, ça marche bien.
Ouais, ça fonctionne.
Ouais, ça fonctionne. Ouais, on arrive toujours à trouver un moyen de faire fonctionner. Et quand Gabriel était en France, il arrivait en fait à parler pas mal en français en fait avec mes grands-parents. Enfin, avec ses grands-parents.
La différence entre les grands-parents, je parle français, avec maman, je parle anglais. Ou...
Et ouais, en fait, je trouve qu'il a bien évolué en fait. Donc,
ouais.
C'est énorme, hein, l'immersion.
Ouais,
il faudrait l'emmener un peu plus souvent, c'est ça le but.
Vous rentrez quoi, une fois par an ?
C'était ce qu'on s'était dit avant Covid, etc.
Ouais, bien
bon,
sûr,
maintenant,
après le Covid, ça a été compliqué.
Mais oui, c'est une fois par an, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, on va faire un peu plus maintenant que tous les vols reprennent un peu.
Ouais.
Delta qui reprend les vols depuis Los Angeles jusqu'à Paris. De San Francisco, on a maintenant 3 compagnies aériennes qui rentrent en France. Donc, on a un peu plus d'occasion de rentrer en France. Ouais.
Est-ce que tu dirais que toi, en fait, être devenu pilote de ligne aux États-Unis, est-ce que ça fait partie un peu de ton rêve américain ou c'est quoi ta définition du rêve américain ?
C'est une bonne question. Le rêve américain, je pense qu'il est propre à chacun, en fait.
Mm-hmm.
Tu vois, j'ai mon oncle, en fait. Enfin, c'est pas mon oncle, c'est l'oncle de mon papa qui est venu aux États-Unis il y a 50 ans, en fait. Après la Seconde Guerre mondiale, et lui, il a fait son propre rêve américain. C'est-à-dire qu'il a énormément travaillé pour gagner énormément d'argent, pour faire sa vie, pour acheter ses maisons, etc. Ça peut être un rêve américain. Moi, mon rêve américain, c'était vraiment d'arriver ici, de fonder une famille et d'avoir un métier qui me permettait, en fait, d'avoir cette famille.
Mmh.
Et en plus de ça, bon, effectivement, si en plus de ça, j'étais pilote de ligne, c'était quand même la cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est ma famille avant tout, quoi.
Quelle relation, du coup, est-ce que tu entretiens avec les US ? Là, tu me disais il y a quelques minutes avant qu'on appuie sur enregistrer que tu es sur carte verte et que tu as la nationalité française, mais pas américaine, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Ça fait 4 ans que je suis aux États-Unis avec une green card. Étant marié avec une américaine, je peux demander la nationalité après 3 ans. Et donc, j'ai commencé ces papiers, en fait, il y a quelques mois.
D'accord.
Pour le moment, je suis sous green card.
Donc, tu as décidé de devenir américain.
Et j'ai décidé de devenir américain. Et en fait... Et c'est surtout logique, en fait, dans le sens où mes enfants, mes deux enfants, Pierre et Gabriel, sont français, mais aussi américains.
Ouais.
Et je me suis senti... je me suis senti un peu obligé, en fait, d'avoir la même nationalité qu'eux.
Donc c'est plus pour tes enfants que pour le pays ?
Sincèrement, c'est une bonne question. J'ai pas vraiment réfléchi à ça. Je pense que si j'avais pas eu mes enfants... Ça aurait mis un peu plus de temps. Je pense que je l'aurais eu parce que voilà, je suis attaché au pays et puis à ma femme, etc. Et puis maintenant, voilà, on habite ici.
Mm-hmm.
Mais je pense que ce qui a vraiment déclenché le truc, c'est mes deux enfants sont franco-américains avec 2 passeports. Et je me suis dit, ça serait bien de faire comme eux, en fait.
Ouais.
Voilà,
sur un pied d'égalité avec eux.
Ouais, de les suivre. Ouais.
Et Heather, alors, du coup, est-ce qu'elle va devenir française ?
Je pense qu'un jour, si on part revivre en France, je pense que oui, tout à fait, elle voudra l'être. Mais pour le moment, c'est pas encore
c'est
au bout du jour.
Ouais.
Mais on en a parlé ensemble. Et si on devait partir des États-Unis pour vivre en France, on le ferait.
Et alors, est-ce que partir des US, c'est un plan ou pas du tout ? Ou c'est un truc un peu...
Disons qu'on a réfléchi à la possibilité.
Ouais.
Et c'est vraiment, vraiment très, très possible. Mais pas maintenant.
Ouais.
Mais c'est possible. En plus, avec mon métier, en fait... Il y a des compagnies aériennes américaines qui sont basées en France.
Ouais.
Et je pourrais être basé en France tout en étant sous les lois américaines. Donc pour le moment, ça pourrait être une possibilité. Ce n'est pas encore le choix à 100%, mais ça pourrait être vraiment génial pour les enfants. En fait. Vraiment, encore une fois, c'est pour les enfants avoir une école française, avec une culture française, leur donner la chance de vivre en France et de parler français. Parce que, bon, après, voilà, s'ils retournent aux États-Unis ou quoi que ce soit, ils auront plus cette chance-là après, quoi. Donc, ouais, c'est possibilité, on verra. Pour le moment, on n'y est pas encore.
Qu'est-ce qui fera que vous faites le grand saut, tu penses ?
C'est à cause des tueries dans toutes les écoles, quoi.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est toutes les insécurités que tu peux avoir ici. Ouais.
Mais moi, j'avoue qu'aussi, si je me barre, c'est ça. Hein.
Ouais. Je pense que tu ne pourras pas le mettre, mais.
Pourquoi ?
Voilà.
C'est vrai.
Ouais, c'est
vachement... c'est ça qui vous fait vous poser la question.
Ouais,
plus
tout
que...
à fait. Ouais. Ouais. Non, en fait, c'est...
sinon vous resteriez ici. Tu
penses ? Oui, je pense que oui. On est vraiment bien ici. C'est juste que moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que dans une école à côté de mes enfants, il y ait un problème d'armes à feu.
Ouais.
Pour moi, c'est pour tous les Français, en fait, c'est inconscient. Et aux États-Unis, c'est normal entre guillemets, et c'est normal. Hein. C'est normalisé maintenant. C'est normalisé. C'est dingue. Et c'est un sujet qui est vraiment qui m'est très à cœur.
Ouais.
Et qui est aussi à cœur à des heures, et c'est voilà. Si ça arrive, si ça se rapproche de nous, on restera pas très longtemps aux États-Unis. Ouais. C'est, ouais.
Donc pour l'instant, c'est pas un projet à court terme.
Non, non,
et
non
on espère du coup que ça ne devienne pas.
Non,
parce
non,
que, vu les critères
pas.
Que tu viens de nous poser,
surtout pas. Mais ouais. Voilà, on a ces options là, on en a parlé. On sait que si ça arrive, on aura la possibilité de le faire.
Ouais. Et quel rapport est-ce que tu entretiens avec la France du coup aujourd'hui et tes enfants, tu vois, genre comment est-ce que tu arrives à leur transmettre la culture puisque tu parles en fait tu vois, de l'école française mais du coup ils sont pas encore scolarisés, comment est-ce que tu arrives à transmettre cette culture au sein d'une famille multiculturelle justement?
Ouais, bah déjà le langage, hein, on en parlait avant, le langage c'est la première partie, la seconde partie ça peut être un peu nos habitudes, on mange tard, on mange je sais pas, à 20h le soir, etc.
Ah oui, t'as pas pris l'habitude américaine là-dessus.
Mais ouais, on mange tard, on mange à la française, autour d'une table, pas sur un canapé, donc tout ça. Et puis on regarde énormément de films ou de je sais pas, des dessins animés en français.
Mm-hmm.
J'essaie vraiment d'inculquer le français, et pas que le langage, mais vraiment les habitudes en fait. Voilà.
Ouais. Donc, tu as une grande tradition autour du repas, ce que tu dis.
Le repas, ouais, c'est important pour moi.
Comment est-ce que tu imposes ça vis-à-vis, en fait, je veux dire, dans un couple, on est d'égal à égal. Est-ce que Heather, elle a grandi avec ce genre de tradition ou pas?
Ouais,
tu vois,
c'est génial que tu poses cette question parce que, en fait, Heather, elle n'est pas du tout dans ce cas-là. Elle, c'était souvent manger très tôt, sur le canapé.
Chacun pour soi.
Ouais, chacun pour soi, regarder la télé. Et moi, ça a été un peu dur et du coup, on en a vraiment. J'ai pas imposé ça, on en a parlé tout ensemble.
Ouais.
Et on s'est dit, voilà, bah moi je viens aux États-Unis et je comprends qu'il y a énormément de culture américaine, ça, mais j'aimerais aussi apporter quelque chose qui sont importants. Et du coup, j'en ai parlé un peu de ces repas. Bon, alors les repas à 20h, c'est
pas facile avec des
pas
petits
facile,
quand même.
Voilà. les petits, ça, c'est plutôt 7h ou quoi que ce soit. Mais on se met quand même autour d'une table à 7h et on mange. Comme si on mangeait en France, quoi. Et voilà, ça fait partie de ce que j'ai fait. Après, je sais que de temps en temps, on se fait des repas devant la télé, c'est rare.
Mm-hmm.
Mais alors, je sais que ça lui plaît énormément. Et donc ça, c'est une première partie, ouais. Après, on lit beaucoup de livres en français le soir. Mm-hmm. On fait des histoires en français. Je pense que même le fait d'être juste moi-même et d'être français, mm-hmm. j'apporte les traditions tout doucement sans vraiment le savoir en fait.
4 ans, tu vis dans une famille multiculturelle, 4 ans aux États-Unis. Quelles sont les habitudes peut-être en fait que tu as prises quoi, juste parce que tu vis dans un autre pays? On en a tous prises des habitudes comme ça.
Ouais.
Moi perso, je mange beaucoup plus tôt que toi maintenant.
Alors ça, je t'avoue que c'est l'une des choses que j'ai vraiment réussi.
T'es intransigeant.
Ouais. Moi, je veux manger à 8h, elle veut manger à 6h, donc c'est 7h en fait. Ouais. 7h, c'est notre, c'est notre truc. Mais après, quand on est en famille, je sais très bien que voilà, ce sera peut-être 4h ou 5h. Bon. Et à chaque fois, je ferai une petite remarque comme ça, un peu. Voilà. C'est j'aime bien être. Ouais, bon, voilà. Je sais être flexible s'il faut l'être, quoi. Avec sa famille, et surtout, je le fais. Et puis, voilà, on mangera devant la télé à 4h de l'après-midi. Bon, très bien, on le fera. Quelles habitudes j'ai prises? Bah en fait, j'ai tellement changé ma vie en fait quand je suis arrivé ici. Mm-hmm. Quand je suis arrivé ici, je me suis marié, mm-hmm. j'ai eu un enfant, un deuxième enfant. Je pouvais pas vraiment apporter mes habitudes. Ouais. L'habitude que j'ai perdue, c'était j'ai arrêté de faire du vélo en fait. Enfin, j'ai arrêté de faire du sport. Donc j'ai fait un Ironman. Je sais pas si tu te souviens pendant la période où j'attendais en fait ma green card. Je savais pas quoi faire, donc j'ai fait un Ironman. Et puis j'ai un peu arrêté parce qu'avec les enfants, en fait, c'était dur de trouver un équilibre en fait entre les heures de vol et puis aussi rentrer à la maison et m'occuper de l'enfant parce que j'avais les heures qui aussi s'occupaient de lui, donc c'était vraiment très dur.
Mm-hmm.
Et après un an en fait, surtout le Covid est arrivé, Et puis on s'est dit, tiens, on a du temps, du temps pour nous. Et donc là, j'ai réussi en fait à me remettre au vélo. Et donc là, maintenant, je fais du vélo tous les jours. J'ai pas arrêté depuis le Covid. Et Isor aussi, elle a refait un peu du sport. Donc on prend un peu plus de soin de nous en termes de sport en fait. Je fais du sport. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs, je suis arrivé un peu en retard aujourd'hui parce que j'étais à la salle de sport.
Bah, c'est bien. Il y avait une culture du travail et du temps perso comme ça dans ta famille en grandissant, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert un peu toi en devenant papa, en devenant homme en fait?
Ouais, je l'ai vraiment découvert moi-même parce qu'en fait mes parents ont énormément travaillé. Ils ont tous les deux leur entreprise. Ils travaillent énormément et alors on faisait pas beaucoup de vacances, mais quand on faisait des vacances, ce sont des vraies vacances. On partait 2 semaines ou bon, peut-être 3 semaines, mais bon, on partait quand même relativement longtemps et on allait quelque part très intéressant. Mais c'était très rare.
Ouais.
Mais je les voyais pas souvent, mes parents. En fait, parents travaillaient de 8h à 19h le soir. Mmh. J'avais des nounous, etc. Et pour moi, c'était normal en fait. Et maintenant, je me rends compte en fait que bah non, je peux faire un peu plus que ça.
Mmh.
Et voilà, je regrette pas du tout parce que je comprends que mes parents en fait, ils avaient besoin de travailler.
Mmh.
Mais moi, j'ai aussi besoin d'être avec mes enfants et Pierre et Gabriel.
C'est notre génération en fait. Est-ce que notre génération est un peu en train de réinventer les modèles familiaux, les modèles professionnels aussi? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner au Anthony de janvier 2020?
Je pense que j'aurais dire sois patient en fait. Parce que en fait, tu vois, quand on m'a annoncé que Skyros n'allait pas se faire, que j'allais pas être pilote de ligne, j'étais un peu déçu. Puis surtout, je voulais vraiment, voilà, je me dis, faut que ça se passe, faut que j'ai envie de le faire. Et donc, ouais, sois patient, ça viendra. Il faut juste, faut se calmer et ça viendra, voilà, faut être patient.
Et t'avais réussi à être patient?
Non. En fait, ne pas savoir ce qui va se passer, pour moi, j'ai besoin en fait d'avoir un peu le contrôle sur ma vie.
Mmh.
Et le Covid en fait, ça a porté énormément
d'incertitudes,
d'inconnus en fait dans ma vie. Et ça m'a pas du tout plu.
Mmh.
Et maintenant en fait, maintenant que je sais ce qui s'est passé dans ma vie, c'est facile pour moi de dire effectivement, voilà, sois patient,
ça
va arriver.
Impatient, ça va
parce que c'est arrivé. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est un conseil, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est profite vraiment de la vie de famille.
Ouais.
Et ça, mais j'ai tellement profité avec Gabriel et Heather, donc ça c'était génial. Et je pense que même le français, au niveau du langage, pour moi c'est important qu'il parle français.
Mm-hmm.
J'ai énormément parlé français avec lui pendant en fait ces années où il était très jeune. Et je pense que ça a vraiment influencé en fait sa compréhension du français. Et ça,
fierté.
Voilà. Ouais, fierté. Et vraiment content en fait. Ouais, c'est vraiment génial.
Trop bien.
Voilà.
Et eh ben c'est génial. Est-ce que t'as un petit mot de la fin pour moi, pour les gens qui t'écoutent, pour Heather, pour tes enfants?
Un petit mot de la fin. Bah écoute, je suis vraiment content de t'avoir rencontré parce qu'on a fait ça. J'étais en Californie, t'étais à Boston, donc il y a quand même.
J'avais mon fils de quelques mois sur les genoux qui dormait. C'était pas toujours facile. C'est vrai que si on m'avait dit en lançant le podcast que ça allait mener à des rencontres en vrai et à des rencontres finalement sur le long terme aussi, tu vois.
Exactement. Ouais,
je m'y serais pas vraiment attendu.
Tu parles du long terme, mais c'est vrai, ça fait 4 ans. Mm. On a très bien se perdre de vue quoi que ce soit, et ça fait vraiment plaisir de rencontrer. Et je rencontre peu de Français en fait finalement aux États-Unis. Ouais.
Bah écoute, merci beaucoup Anthony.
Avec grand plaisir.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Anthony pour cette très chouette rencontre en personne dans un bar de Denver. J'espère que ce petit retour aux sources vous aura plu. À vous, auditeurs de la première heure, vous aurez certainement apprécié avoir quelques nouvelles d'un de nos tout premiers auditeurs, vous l'aurez compris, de French Expat. Et si vous ne connaissez pas encore l'histoire d'Anthony, je vous invite fortement à aller la découvrir. Je vous mets le lien dans la description de cette épisode. Il est désormais temps pour nous de reprendre notre programmation habituelle. Je vous souhaite donc une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.
Est-ce que tu m'entends?
Eh oh! Eh oh, eh oh!
C'est bon, ça marche bien.
Cool.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.